Bonjour à tous. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Alors, vous avez les salutations de l'église de Musiac. C'est l'église dont je fais partie. C'est à 1h30 d'ici, du côté de Vannes. Et puis de mon père Philippe Vautier, pour ceux qui le connaissent. Et je crois qu'il y a quelques frères et sœurs dans la salle que j'ai dû... Bon, il y a les jeunes avec qui on était hier soir. Et puis... les frères Gédéon, alors il y a un des frères que j'ai eu au téléphone là, il y a deux ou trois semaines, donc c'est rigolo, le monde est petit et ça fait plaisir de pouvoir se rencontrer aussi dans ces occasions. Alors ce que je vais vous parler en fait ce matin, donc on va prendre un passage dans la parole de Dieu, mais j'aimerais aussi vous parler de la mission, donc j'en parlerai après avec un diaporama photo. Donc on a une petite association évangélique, hein, on n'est pas une grosse structure, plutôt familiale. Où là-bas, en fait, c'est au Tchad. Je vis avec des frères et sœurs tchadiens pour la plupart. On a quelques frères et sœurs de Centrafrique, du Cameroun et d'Europe qui sont engagés avec nous, mais la plupart sont tchadiens. Et j'aimerais plus... En fait, c'est vrai que, bon, je parlerai un petit peu de mon témoignage, mais j'aimerais un peu plus parler d'eux aussi, parce qu'ils sont pour moi des exemples par leur vie, par leur comportement, et surtout par l'amour qu'ils peuvent m'apporter. Et c'est vrai qu'on peut avoir des problèmes partout, des fois, dans... C'est vrai qu'en Afrique, quand je suis arrivé avec les organisations, tout ça, c'est pas toujours évident. On voit des choses qui sont tristes. Ici aussi, enfin partout sur cette terre, malheureusement, on vit dans un monde qui est soumis au diable, soumis au péché. Mais on rencontre des gens formidables. Et c'est vrai que dans le domaine de la relation humaine, de l'amour, de la fraternité, j'ai beaucoup appris avec ces frères qui sont là-bas. Et je crois qu'ils ont beaucoup à nous apprendre, puisque je me rends compte qu'en France, quand même, je me rends compte, donc c'est pas du tout un jugement. On a une abondance matérielle, mais on a beaucoup de mal à développer des liens fraternels, d'amitié qui soient authentiques et sincères, vécus dans l'amour de Dieu. Et je crois que c'est ce que le Seigneur Jésus veut pour chacun de nous, c'est que l'Église, c'est une famille où les gens s'aiment, où les gens vivent ensemble, et il veut qu'on puisse se témoigner de cet amour entre nous, comme eux, ils peuvent le vivre là-bas, et comme Jésus nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Et on va le voir que c'est quelque chose qui est très important en fait dans le cœur de Dieu. C'est pas seulement les œuvres, les activités qu'on peut faire ou venir à des réunions ou faire plein de choses, parce qu'on peut faire plein de choses pour Dieu et c'est important. C'est vrai qu'on appartient au Seigneur, on doit être zélé aussi pour son service et le servir de tout notre cœur. Mais l'amitié et la fraternité est très très important. Jésus le dit lui-même, à ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. S'il n'y a pas cet amour, c'est toujours un contre-témoignage et beaucoup de gens qui peuvent être dans d'autres religions ou dans le monde ou dans la débauche, tout ce que vous voulez, bah, des fois ne viennent pas à Dieu justement parce qu'ils n'ont pas de personne peut-être à qui se confier d'exemple autour d'eux qui peut les amener à Jésus. Donc c'est notre responsabilité à chacun, quelque part on est tous... On est tous missionnaires, alors ce mot n'est pas dans la Bible, mais en tout cas on est tous appelés à servir les autres, à servir Dieu et à annoncer l'évangile. Et le passage que j'aimerais prendre avec vous, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6. Dans Ésaïe au chapitre 6, et puis je fais la lecture à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Je répondis, me voici, envoie-moi. Donc avant de prendre un autre passage, déjà dans ce texte, on voit un peu que Ésaïe, il est en train de servir Dieu dans le temple, et il a cette vision en fait de la gloire de Dieu. Et comme beaucoup de personnages dans la Bible, en tout cas depuis la chute, quand ils sont confrontés à Dieu, ils ont cette peur, cette angoisse en eux-mêmes, ils pensent qu'ils vont mourir. On le voit avec Daniel, on le voit avec Jean aussi, quand il voit Jésus qui est dans sa gloire, hein, quand il a cette vision des temps de la fin, dans le livre de l'Apocalypse, il tombe à ses pieds comme mort. Et c'est vrai que devant Dieu, devant sa présence, sa sainteté, l'homme a une certaine crainte en fin de compte. Et pourtant, Ésaïe, ce n'était pas n'importe qui, il faisait partie du peuple d'Israël, qui est un peuple que Dieu il a choisi, justement, pour faire porter sa gloire et faire connaître son nom. Il était en plus pas n'importe qui dans le peuple, mais quand même dans le service, prophète. Donc il servait Dieu, il était dans le temple, il n'était pas, quand il a cette vision, en boîte de nuit ou en train de faire le désordre ou de faire des choses qui sont mauvaises. Il était en train de servir, il était dans le temple à Jérusalem. Et c'est à ce moment-là qu'il est un peu transporté dans ce qu'on appelle en fait dans la tradition juive aussi le temple céleste. Voilà, il y a le temple terrestre où il faisait le culte. Et là, il arrive en fait dans la présence de Dieu, où il voit cette gloire de Dieu et cela le touche et cela lui fait peur. Et sa réaction, ça me fait penser un peu à l'apôtre Paul, vous savez, dans son épître, quand il dit « Mais malheureux que je suis, qui va me délivrer de ce corps de mort ?» En fait, il se rend compte de tout ce qu'il peut avoir dans son cœur qui n'est pas bon. C'est vrai qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul sur la terre. On est tous pécheurs, séparés de la gloire de Dieu. Et là, il se rend compte en fait de son état de pécheur devant Dieu parce qu'il est confronté à sa sainteté. Et il dit, on le voit au verset 5, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Et c'est cette crainte, cette angoisse, vous savez, qui n'était pas au départ. C'est vrai, quand Dieu il a créé le monde, tout était parfait. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y a pas eu une évolution à partir de la mort non plus, ou que les gens se sont reproduits comme ça. Et non, au départ, tout ce que l'on vit aujourd'hui n'était pas prévu à la base quand Dieu a créé le ciel et la terre. Il y avait entre l'homme et la femme une harmonie et un amour parfait, et l'homme était relié directement avec Dieu. Il nous est dit que Dieu il allait visiter l'homme chaque jour dans le jardin. Et Dieu, l'homme, il ne savait pas ce que c'était la peur, le péché, le mal. Il n'éprouvait pas cette crainte vis-à-vis de Dieu, en tout cas cette angoisse-là. Et il y avait cette complicité, cette relation d'amour finalement que Dieu pouvait avoir avec l'homme et la femme, Adam et Ève, et tout était beau. Bien sûr, on sait ce qui s'est passé avec le diable, l'ennemi, qui a pris l'apparence d'un serpent et puis qui a tenté Ève. Adam a suivi, donc les deux ont quitté la présence de Dieu et puis ont décidé finalement de vivre leur vie sans Dieu, d'être indépendants, de faire ce qu'ils voulaient. Donc ils ont développé leur culture, leur tradition, leur civilisation en dehors de Dieu. Donc ils pouvaient toujours croire en une divinité, croire en l'existence de Dieu bien sûr, mais ils étaient coupés, ils étaient morts vis-à-vis de lui, ils étaient coupés de sa présence en fin de compte. Et Dieu, depuis la chute, n'a cessé de ramener l'homme à lui, puisque Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de sainteté, de justice, qui n'accepte pas le mal, qui ne tient pas le coupable pour innocent, mais qui ne veut pas que le méchant meure. Il veut que le méchant se repente et vive. Et Dieu, il connaît notre cœur, et il le dit, de façon, c'est vrai, dans la parole de Dieu, il y a un verset qui dit que, je crois que c'est dans Jérémie, le meilleur des hommes, son cœur, c'est comme un buisson d'épines. Donc Dieu, il sait très bien ce qu'il y a en nous, il sait qu'il n'y a rien de bon et qu'on est irrécupérable. Mais Dieu y fait tout, justement, pour que nous puissions le connaître et vivre avec lui parce qu'il nous aime, parce qu'il veut notre bien. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus. C'est pour que nous puissions en nous recevoir la vie de son Fils, que nous puissions être sanctifiés, purifiés et connaître le véritable amour que dans ce monde, que ce monde ne pourra jamais nous apporter. Donc Dieu y voit effectivement que Ésaïe, c'est quand même quelqu'un qui sert Dieu, qui fait quand même de bonnes choses, Mais il sait très bien que finalement, au fond de lui, sa justice, ça ne correspond pas à ce que Dieu voudrait et qu'il a bien des problèmes, du vice, du péché, des mauvaises choses qui sont en lui-même. Et Ésaïe le reconnaît, il a cette honnêteté de le reconnaître quand il est confronté à cette présence de Dieu. Et puis aussi, il voit un peu que tout autour de lui, finalement, le peuple dans lequel il vit sont aussi dans cette corruption, dans ce mal, cette méchanceté. Donc, vous le savez, c'était une époque où il y avait déjà une division au niveau du peuple d'Israël. Donc, Dieu avait voulu que son peuple soit un royaume de prêtres, de sacrificateurs, et que le peuple soit uni. Mais ils n'arrivaient pas à s'entendre. Entre tribus, ils s'affrontaient, ils se battaient, ils se faisaient la guerre. Ils n'arrivaient pas à trouver un terrain d'entente pour servir Dieu ensemble. Donc il y a eu un schisme, on a appelé ça le schisme, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Donc il y a eu 10 tribus au Nord, 2 au Sud, et puis Ésaïe se trouvait dans le royaume du Sud de Juda avec Jérusalem pour capitale. Et les rois après qui ont régné, déjà au Nord, étaient tous corrompus et mauvais, malheureusement. Donc le peuple, les tribus ont beaucoup souffert de cette royauté en fait, que Dieu n'avait pas prévue au départ pour son peuple. Et dans le royaume du Sud, c'était un petit peu mieux. Il y a eu des bons rois. On connaît le roi David, Ézéchias et bien d'autres. Mais la plupart étaient quand même corrompus, mauvais, idolâtres et ont fait des choses terribles. Il y en a même un, Manassé, qui avait rétabli le culte au dieu Moloch, où on sacrifiait des petits-enfants dans la gueule de ce dieu, de cette statue. C'était une grande statue. Et les enfants s'écrasaient en bas de la statue dans un feu quoi, qu'on allumait. On a appelé ça le feu de la Géhenne. Et c'était un culte que Manassé avait rétabli et bien d'autres. Donc on voit que finalement, le peuple s'est laissé séduire et puis a voulu faire comme le monde. Donc ils n'ont pas réussi à être unis dans l'amour comme Dieu le voulait. Et puis ils se sont dit, bah oui, comme les autres peuples, les autres nations, ils ont aussi leur roi, ils ont un royaume, tout ça. Bah nous aussi, on en a envie quelque part. Ce que Dieu là, il nous demande, son système, on n'en veut pas trop. Nous, on a envie de faire un peu comme les autres font, quoi. Et puis l'homme, il recherche souvent la vanité. On aime beaucoup le paraître. On aime bien montrer un petit peu aux autres qui on est, comment on vit. Et on est beaucoup dans l'apparence, surtout dans notre monde aujourd'hui, dans notre société occidentale aussi en particulier. On va être beaucoup, beaucoup dans l'apparence, mais on aura du mal à se confier. Et même si on veut partager des problèmes ou des choses qu'on vit qui ne sont pas forcément très bien, on va avoir peur de les partager parce que c'est un peu la loi du plus fort où les plus grands écrasent les plus petits. Et puis c'est vu un peu même comme des faiblesses. Donc il faut toujours montrer un petit peu qu'on est meilleur, qu'on est bien. Et au lieu de regarder au cœur comme Dieu, puisque Dieu ne regarde pas à l'apparence ni au physique, on peut avoir des handicaps mentaux, physiques. Dieu n'en a rien à faire de ça. Il ne regarde pas notre manière de parler, de nous habiller ou d'être ou de paraître surtout, mais il regarde à ce qui est au plus profond de notre cœur. Dieu attache de l'importance à cela. Et vous savez, pour Jésus, il est dit de lui qu'il n'avait rien pour plaire ni pour attirer nos regards. Et c'est vrai qu'il était très très différent de ce que certains pouvaient attendre. Et même si, pourtant c'est le Créateur, c'est par lui que tout a été fait, c'est lui qui a fait le ciel, la terre, tout ce qui s'y trouve, mais il est venu humblement et simplement pour servir, faire du bien, et quand on le voit dans son ministère, il a fait des choses merveilleuses, le Seigneur. Il a ressuscité des morts, il a guéri des malades, et ce qui est intéressant de voir, c'est que vers la fin de son ministère, peu avant sa crucifixion, quand il parle avec ses disciples, il ne va pas mettre en avant un petit peu tous les exploits qu'il a pu faire. Les personnes qui sont venues à lui, qui se sont converties, les miracles, les résurrections, il ne va pas mettre l'accent là-dessus. Il va simplement parler avec ses disciples, ça on le voit dans l'évangile de Jean, dans la prière sacerdotale, dans le discours qu'il a avec ses disciples, cet entretien avant sa crucifixion. Il va partager sur les liens d'amitié et d'amour qu'il a tissés avec ceux, avec ses disciples qu'il appelle ses amis, ceux que le Père lui a donnés. Et si vous lisez tout le discours dans Jean 13, 14, 15, ça sera sur ça. Ça sera vraiment et une recommandation justement aux disciples de pouvoir s'aimer comme lui, il les a aimés. Donc Jésus attache une importance fondamentale, Dieu aussi, et on va le voir en fin de compte qu'aujourd'hui on vit dans un monde malheureusement qui n'est pas tellement différent de ce que nos pères ont connu. Vous savez, l'Ecclésiaste le dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été fait par le passé, c'est ce qui se reproduit. Et je dirais même, tout le monde n'est pas forcément parfois d'accord avec cela, mais c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur, qu'on va de pire en pire. En fait, si on lit attentivement les prophéties dans toute la Bible, le monde ne va pas vers une évolution comme on le pense, parce que c'est vrai que on s'imagine, oui, avec les droits de l'homme, le matérialisme, la technologie, on arrive finalement à retrouver ce paradis perdu, ce jardin d'Éden que l'homme a perdu au commencement. Mais on voit bien que quand on examine un peu plus près le système et ce qui se passe, on voit bien qu'on va plutôt vers une régression à tous les niveaux, que ça soit spirituel, que ça soit moral, et même matériel, bizarrement, on va le voir aussi. Et en fin de compte, le Seigneur, il nous invite à prendre conscience des temps dans lesquels nous vivons, puisqu'il est à la porte, il revient bientôt. Et ce monde, c'est vrai que Dieu, il aime ceux qui y vivent. Voilà, qu'ils soient riches, pauvres, Dieu ne fait pas de différence, il aime chacun, il veut sauver chacun. Mais le monde va à sa perte. Le monde va à sa perte. Et en fait, nous arrivons vers un système que la Bible appelle le système de l'Antichrist, c'est-à-dire une dictature mondiale où le diable régnera en maître. Donc il est déjà le prince de ce monde. Et là, il régnera sur la terre pour un court temps à travers un personnage, l'Antichrist. Et son esprit est déjà à l'œuvre, de toute façon. On sait que c'est lui que le Seigneur détruira donc à son retour, ainsi que tout son système, que la Bible appelle aussi Babylone la grande prostituée, ou alors la quatrième bête qui est prophétisée dans le livre de Daniel. Vous savez, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que sinon ça serait trop long et ce n'est pas le message non plus ce matin. Mais c'est important, j'ai eu à cœur quand même, j'ai pas prévu, mais j'ai eu à cœur juste de dire quelques mots là-dessus quand même, parce que je pense que c'est important qu'on soit un peu conscient de ce qui se passe. Et en fait, Daniel, il a la vision de bêtes, quatre bêtes sauvages. Donc il y en a trois qui sont facilement identifiables. Il y a l'Empire babylonien, les Perses et les Mèdes, les Grecs, qui ont des empires qui ont été renversés les uns après les autres. Et puis la quatrième qui est un peu plus difficile à identifier, mais quand on lit attentivement, on se rend compte que c'est l'Empire de Rome. Et ça, tous les Juifs le savaient, même encore aujourd'hui. Ils savent très bien que ces royaumes-là font référence, enfin cette quatrième bête fait référence à l'Empire romain. Alors, c'est quoi l'Empire romain ? Parce que c'est vrai que l'Empire romain tel qu'on le connaît dans l'histoire, c'est comme si c'est un peu disparu. Mais on voit finalement que notre culture, notre civilisation a été héritier, a complètement hérité de cet empire-là. Et qu'en fait, cet empire est en train de ressurgir, de ressusciter sous nos yeux aujourd'hui, avec à peu près les mêmes frontières au niveau de la Méditerranée. Et on voit que même dans notre culture, dans notre manière de gérer, on est très, très influencé par ce monde, aussi bien militairement, politiquement, religieusement, que pouvaient l'être les Romains à l'époque. Et on se rend compte que c'est forcément un royaume de toute façon qui n'a pas disparu, puisque c'est ce royaume, cette petite pierre-là qui se détache de la montagne, qui le détruira et qui amènera le royaume de Dieu. Donc c'est forcément un royaume qui devra exister, malheureusement, jusqu'au retour du Seigneur, jusqu'au retour du Messie, de Jésus-Christ. Et en fait, la Bible nous parle beaucoup, nous donne encore beaucoup de détails sur... notamment dans le livre de l'Apocalypse, où on voit un petit peu sa manière de fonctionner. Et c'est intéressant de voir que c'est représenté par des bêtes sauvages. Alors pourquoi c'est représenté par des bêtes sauvages ? Et le royaume de Dieu est représenté par un fils de l'homme. Et Jésus s'est souvent identifié au fils de l'homme. Tout simplement, c'est pas compliqué, mais c'est que tous ces royaumes, tous ces empires sont des empires cruels, bestiales, féroces et méchants. Daniel a même dit qu'il foulera la terre tout sous ses pieds. Il va tout détruire, tout ravager partout dans le monde sur la terre. Ça sera un massacre. Et on le sait bien que tous les empereurs, les dictatures qu'on a pu voir dans l'histoire, que ce soit avec le nazisme, que ce soit avec... tous les grands empereurs ont eu cette envie, cette ambition, on le voit aussi avec Napoléon et bien d'autres, de conquérir le monde entier. Et d'avoir un règne et une domination mondiale. Et cette idée qui est dans le cœur de l'homme existe encore bel et bien aujourd'hui. Et ce que les hommes n'ont pas réussi à faire par le passé avec la violence, la force et les guerres, on arrive à le faire aujourd'hui par une certaine douceur, entre guillemets, qui n'est pas une vraie douceur, on va un petit peu en parler aussi. Et puis toute cette technologie et ce matérialisme aussi qu'on peut avoir. Ce système se met de plus en plus en place sous nos yeux, notamment avec la mondialisation et avec certains groupes sectaires tels que la franc-maçonnerie et tout ça. Il y a vraiment cette domination. Et c'est vrai que c'est étonnant de voir que, un petit peu, si vous voyagez un petit peu partout dans le monde, toutes les cultures, même sont en train de disparaître, on a à peu près... Alors moi, je travaille un petit peu en usine, en intérim. Et quand on fait des hamburgers ou des pizzas, c'est tous les mêmes. Du début à la fin, c'est identique, c'est la même chose. Et on a un peu de plus en plus une pensée unique, une même culture, une même façon de voir, de vivre, partout, que ce soit en Afrique, en Asie, dans le monde arabe. Il y a de moins en moins de différences culturelles et de plus en plus cette pensée unique cette unité qui n'est pas une véritable unité, puisque Dieu n'est pas non plus pour l'uniformité. Il est pour l'unité, mais en respectant nos différences, nos cultures, nos habitudes et ce que nous pouvons vivre, puisque Dieu a beaucoup de respect et d'amour pour nous. Et on voit qu'on rentre de plus en plus dans ce système-là. Alors, ce qui est grave aussi, c'est par rapport à ce qu'on pourrait évoquer. Alors, je vais prendre un texte avec vous. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58. Et en fait, ce royaume de Dieu, il est représenté par un fils de l'homme, tout simplement puisque c'est un royaume qui a des sentiments humains. Parce qu'il nous est dit du Messie, de Jésus, qu'il prendra soin des plus petits. Il prendra soin des pauvres, des orphelins, des veuves. Il les aimera. Ça sera un royaume où il y aura la justice qui n'existe pas sur la terre. Il y aura un véritable amour. Il y aura une paix. Donc les guerres seront finies. Et si vous prenez l'histoire de l'humanité depuis la chute, l'histoire humanité n'a été qu'un bain de sang. Ça n'a été que des guerres. Et chaque peuple, chaque tribu a toujours voulu dominer les autres. Ça a été l'exploitation de l'homme par l'homme pour acquérir ses biens, ses richesses et dominer. Ça a toujours été ça. Jésus le dit lui-même, c'est ainsi dans les nations, les rois des nations les dominent, les tyrannisent, mais qu'il n'en soit pas de même parmi vous, que le plus grand soit comme le plus petit. Donc vous savez, même Jésus le disait à ses disciples, il nous demande justement de vivre avec des valeurs qui ne sont pas celles du monde, qui sont celles de Dieu, qui sont celles du royaume de Dieu et qui sont très différentes, je dirais même à l'opposé de ce qui se passe sur la terre. Et c'est pour ça que ce royaume de Dieu qui va venir est représenté par un fils de l'homme et que tous les autres sont représentés par des bêtes sauvages. Donc dans ce passage, donc dans Ésaïe 58, à partir du verset 1er, il nous est dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point égard ? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Et les disputes et les querelles, c'est un problème que l'on peut vivre dans beaucoup d'églises, dans beaucoup de communautés, un peu partout. Et le Seigneur nous appelle à pouvoir nous pardonner, nous réconcilier et être ensemble dans cet amour-là. Et ça, c'est important. Et en fait, donc Dieu les reprend et voilà, il explique un petit peu le jeûne auquel il prend plaisir. Donc là, il nous parle du jeûne qui... Alors, ce n'est pas seulement se priver de nourriture ou de boisson, même si c'est une bonne chose de mettre du temps à part pour Dieu, de le prier et de pouvoir se priver de... Alors, on ne le fait pas pour se priver de nourriture et d'eau, mais c'est pour être dans la présence de Dieu, pour l'écouter, pour passer du temps avec lui, tout simplement. C'est... En fait, ce n'est pas ça que Dieu remet en cause, mais c'est la manière de le faire. Vous savez que quand Ésaïe a commencé son ministère, c'était après la mort du roi Ozias. Ozias, il avait décidé d'offrir des parfums sur l'autel à la place des sacrificateurs. Donc il a voulu rendre un culte à Dieu, mais à sa manière comme il voulait. Et Dieu, on ne le sert pas n'importe comment. Il y a une manière de lui rendre un culte et de le servir. Et on ne peut pas le servir avec un cœur où on a en nous de la rancœur, de l'amertume, de la haine, de la jalousie, de la méchanceté, ou peut-être une forme d'idolâtrie. Puisque ce que les prophètes, et on va prendre, c'est vraiment important, c'est des passages des fois qu'on ne prend pas beaucoup dans la parole de Dieu, mais il y en a des centaines et des milliers que j'aurais pu citer ce matin. Bon, ça aurait pris toute la journée. Mais constamment dans la Bible, quand je lis, je retrouve ça constamment. Dieu a toujours amené son peuple, revenez à moi, et les a toujours mis en garde, et même jugé quand le peuple allait trop loin dans ces choses, telles que l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, et l'injustice sociale. Ces trois sont liés. Et l'injustice sociale aussi est aussi grave devant Dieu que la divination ou l'idolâtrie. Et en fait, c'est très lié, puisque le culte aux idoles, ça peut être un culte au matériel, à l'argent, qui est représenté par l'idole de Mammon dans la Bible, forcément nous entraîne à avoir un mauvais comportement avec nos semblables, avec les autres et avec Dieu lui-même. Parce que Dieu, il veut la première place. Et quand Dieu a la première place dans notre cœur, on aime les autres comme Dieu il les aime. Si on aime Dieu, bah, qu'on ne voit pas, on aime aussi les autres. Donc on doit chercher cette paix avec tous, autant que cela dépende de nous. Hein, on peut être persécuté, on peut bien sûr être diffamé. Bon, ça, c'est pas, on n'est pas responsable de cela. Mais en tout cas, chercher cette paix, cet amour et prier pour tous ces gens même qui vivent dans le mal et qui ont besoin de Dieu. Et puis bien sûr, donc voilà un petit peu le jeûne auquel Dieu prend plaisir. Donc c'est détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompt toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Donc ça, c'est une promesse aussi que Dieu il nous fait. Quand il annonce des jugements, c'est jamais pour nous détruire, nous anéantir, nous condamner. Au contraire, c'est pour que l'on puisse se reprendre, revenir à lui, faire le bien et vivre. Par Jésus, Dieu veut nous pardonner, comme il a purifié, il a pardonné le prophète. Par Jésus, Dieu peut nous pardonner, nous purifier de tout mal. Peut-être si dans notre cœur, on a des mauvaises pensées, de la haine, de la jalousie, de l'orgueil, de l'impudicité, ou qu'on est attaché au matériel, à l'argent, et puis au monde, peut-être qu'on aime le monde, bah Dieu le voit, mais il nous aime malgré tout et il peut aussi nous délivrer de cela et nous donner le vrai bonheur. Et de toute façon, vous savez, hein, je vous le dis, frères et sœurs, comme on m'avait demandé un petit peu de témoigner aussi, avant de rencontrer le Seigneur, bon, je vivais un petit peu ma vie comme ça, j'ai pas fait d'études ni rien. Au collège, ça allait pas du tout, j'avais un vide dans mon cœur, mes parents sont chrétiens pourtant, et j'ai commencé à m'intéresser au monde, à sortir avec les copains pour boire, fumer, même prendre des joints, tout ça. Et puis, comme j'avais un peu un mal-être au fond de moi, et puis, bon, je voyais bien que sur cette terre-là, la vie qu'on menait, c'était pas non plus formidable, et que je voulais pas de ce quotidien, de cette vie-là. Donc, je prenais un peu la drogue, l'alcool pour m'évader, penser à autre chose, et puis trouver mon bonheur là-dedans. Il y en a d'autres qui peuvent le chercher dans la réussite professionnelle, dans le matériel, dans la reconnaissance hein, aussi, que ça soit aussi bien religieux d'ailleurs, hein, même dans le monde évangélique, ou dans le monde du travail. Mais en fait, toutes ces choses, ça n'apporte rien. Et ce qui m'a apporté, bah, c'est quand Jésus a touché mon cœur, qu'il m'a montré que j'étais pécheur, que j'avais besoin de lui, et qu'il m'a donné de vrais amis, ça c'est important, sur qui je peux compter. Quand ça ne va pas, parce que y a des fois aussi je me décourage, baisse les bras, ça ne va pas toujours. Mais je sais que j'ai des personnes qui sont là pour m'aider, pour m'épauler, pour m'encourager, m'aider. Et sur le Seigneur. Et je mets les deux ensemble. Parce que le Seigneur, il veut qu'entre nous, on soit comme ça. Hein, des fois, on dit, je ne fais pas confiance aux gens, mes frères et sœurs et tout. C'est du n'importe quoi, mais j'ai le Seigneur, j'aime le Seigneur. Si on aime le Seigneur, on doit tout faire pour qu'avec nos frères et sœurs, ça se passe bien. On n'est pas toujours responsable de tout ce qui se passe, hein, bien sûr, quand il y a des conflits, des problèmes. Mais en tout cas, on est appelé à apporter cette paix, cette espérance. Et je terminerai avec un petit texte hein, pour passer à la mission, parce que c'est vrai que je ne voulais pas trop parler sur les temps de la fin. Hein, ça nécessite des études qui prennent du temps. J'étais même un petit peu brouillon là-dessus. Parce que ce n'est pas le sujet non plus, mais j'avais à cœur quand même de dire deux, trois mots. Après, vous pourrez lire à la maison dans Apocalypse 17 et 18. Je vous invite quand même à le lire à la maison, hein, si vous pouvez le noter. Ça nous parle un petit peu de ce système. Voilà, parce que ce qu'on dit, c'est biblique quand même. Hein, ce n'est pas des fictifs, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas des romans, hein, on n'invente pas non plus. On voit que ce système est mondial. Et exploite les êtres humains, c'est-à-dire que les âmes des hommes, hein, on en parlait ce matin avec Robert, les âmes des hommes sont vendues, en fait, sont réduites en esclavage, dans un esclavage qui est spirituel, moral et matériel, pour ce qui, aux yeux des hommes, a le plus de valeur, l'or et l'argent. Et l'or et l'argent, le luxe, va en premier que tout le reste. Et en dernier, ce qui a le moins d'importance aux yeux du monde, c'est les êtres humains. Et dans cette société qui devient de plus en plus individualiste, où on a de quoi nourrir plus de 13 milliards d'habitants sans problème, avec toutes les richesses qui sont produites, avec un luxe que même Louis XIV de son vivant n'a jamais connu. Et pourtant, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 10 secondes. Et pourtant, il y a plus de 300 millions d'enfants esclaves qui sont obligés de travailler dur dans des grandes usines où ils sont exploités, maltraités et battus pour fabriquer la plupart des produits qu'on consomme, et notamment les nouvelles technologies. Donc il y a quand même un problème dans ce développement. Je crois que, et puis on ne parle pas au niveau moral, tous ceux qui font de la dépression, qui se suicident, qui ont un mal-être dans le cœur, qui ne vont pas bien. Il suffit de sortir dans la rue, on voit tout le monde se renferme sur Internet, sur les réseaux sociaux et tout, mais les problèmes que les gens vivent au fond de leur cœur, c'est dur. Moi, j'ai des amis qui font de la dépression, qui ont des pensées suicidaires. J'ai connu même des parents, pourtant, qui sont chrétiens, qui aiment Dieu, qui sont très gentils, qui vivent à Monaco, donc qui ont quand même une certaine aisance. Et la fille, elle n'a jamais manqué de rien depuis toute petite. Et pourtant, les parents sont bien, ils ont un bon cœur, et ils sont assez généreux aussi. Et cette jeune fille qui a vécu dans ce foyer, donc elle a eu des problèmes dans sa vie, elle n'a jamais réussi à trouver quelqu'un pour en parler. Et pourtant, elle était dans une église, là-bas, tout ça. Elle s'est jetée par-dessus la fenêtre du 13e ou 14e étage et elle est morte comme ça. Il y a eu un suicide, ça fait déjà pas mal d'années, mais vous voyez, ça c'est des exemples parmi beaucoup qui montrent que le bonheur se trouve en Dieu, non pas dans ces choses, et qu'on a besoin de vivre peut-être ce que beaucoup de nos frères et sœurs justement au Tchad, là que je vais vous montrer les photos, ont compris. Donc je terminerai juste sur ce passage, donc c'est dans Amos au chapitre 5. Et puis je terminerai là-dessus. Donc c'est au verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte, et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Aussi parce que vous avez foulé le misérable et que vous avez pris de lui du blé en présent. Vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, car vous n'en boirez pas le vin. Bon, un prophète, je pense, je vous invite vraiment à lire. Très, très pertinent. Vos péchés se sont multipliés. Vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Et là, il parle au peuple, mais vous savez, les nations et même nous ne sommes pas meilleurs, finalement. On n'est pas meilleurs que nos pères ni que nos ancêtres qui ont marché avec le Seigneur. Dieu aime toujours son peuple, il a des promesses pour eux. Mais quand ça ne va pas, Dieu le dit aussi. Donc il aime que ça soit son peuple d'Israël, son peuple céleste, les chrétiens, bien sûr. Mais Dieu reprend quand il y a des problèmes, justement, pour qu'on revienne à lui. Vous violez à la porte le droit des pauvres. Voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. C'est ce que Paul dit à un moment aussi. Les temps sont mauvais, le sage se tait. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous. Voilà, donc ça c'est une parole profonde. Et c'est vrai que quand je parle du Tchad, souvent il y a des frères et sœurs qui me demandent, mais voilà, ils veulent des fois que je parle un petit peu du côté occulte, sorcellerie, tout ça, qu'on peut vivre en Afrique, qui existe malheureusement, qui est assez présent en Afrique. Mais pour moi, en Europe, je pense qu'il y en a plus finalement. Parce que dans le monde de la musique, du cinéma, de la politique, de tout ce qui est dans notre culture, vous allez dans des grandes surfaces, dans des magasins, il y a des rayons entiers consacrés à la magie et à la sorcellerie. Il y a plein de gens qui achètent ces livres-là, qui sont passionnés par ça. Donc je pense qu'à ce niveau-là, malheureusement, si on est très lié avec toutes les vieilles mythologies, que ce soit égyptiennes, grecques, les philosophies qui viennent de l'Inde, telles que l'hindouisme, le bouddhisme, il y a beaucoup d'idoles en fait dans notre monde. Il y a l'argent, le matériel, mais aussi plein de faux dieux qui sont présents autour de nous, dans lesquels sont pris nos contemporains. Je voulais juste aussi vous lire ce petit article, et puis je passerai à la présentation de la mission. C'est par rapport au monde des enfants dans la détresse. Donc voilà, c'est pas grave. En Bosnie, des jeunes filles sont violées. Des gangs les violent de nouveau, les mutilent, les assassinent. En Angola, au Cambodge, en Afghanistan, au Mozambique, des enfants sont littéralement déchiquetés par des champs minés, au mieux perdent un membre ou sont condamnés à être amputés puis rejetés leur vie entière. Au Brésil, des groupes paramilitaires massacrent les enfants même lorsqu'ils dorment près d'une église. En Thaïlande, des jeunes filles, de très jeunes filles qui n'ont pas encore connu la puberté, sont enlevées de leur village Myanmar pour être enfermées dans des maisons closes
où elles sont obligées de satisfaire les envies de 10, 15, 20, 30 prédateurs sexuels mâles par jour. En Somalie, au Soudan et au Rwanda, des enfants de tous les âges, réfugiés en pleurs et remplis de terreur, fuyant la guerre civile de toutes leurs forces, sont tués dans leur course par des attaques aux mortiers, des balles ou des machettes. Mais que se passe-t-il donc ici? Comment se fait-il que ces incidents ne soient que quelques exemples parmi des centaines de milliers, voire des millions, sans que le monde ne dise stop? Ce qui se passe est tout à fait horrible, donc je passe un peu. Et puis il explique, mais il le semble et l'évidence le montre, donc c'est un chrétien qui a écrit ce livre-là, c'est Stephen Lewis, que nous assistons. Stephen Lewis, je ne crois pas qu'il est chrétien, mais en tout cas le livre que j'ai, ça a été fait par un chrétien. Là, c'est juste un article. Nous assistons à une désintégration morale accentuée qui conduit à s'attaquer aux enfants avec moins de miséricorde que jamais. Et c'est des choses, bien sûr, on n'entend pas trop parler, mais qui sont bien la réalité. Et je crois qu'on est appelé, en tant qu'enfant de Dieu, à vivre pour le Seigneur et nos biens, notre temps, tout ce que nous avons, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour le Seigneur. On sait qu'en une heure, cette Babylone dans laquelle on est sera détruite, sera jugée, il n'y aura plus rien. Les rois de la terre, les politiciens, les grands de ce monde vont se lamenter et pleurer. C'est écrit. Maintenant, nous, on a une espérance vivante qui est le retour de Jésus, l'enlèvement, sa présence, son royaume aussi qui va venir, où il n'y aura plus de douleur, de maladie, de cris. Et je pense que Dieu, il nous appelle, on l'a lu, à apporter le bien et l'amour à ceux qui nous entourent, déjà en France, à nos contemporains, qui peuvent vivre des souffrances et des problèmes, pas toujours matériels, mais au niveau moral et spirituel en tout cas. Et puis aussi à tous ces enfants, tous ces malheureux dans les autres pays, qu'on peut aussi partager avec eux ce que nous avons, nos biens, notre temps, notre vie. Et des fois, ce n'est pas grand-chose. C'est une prière, un verre d'eau, un repas, un soutien, une parole, un mot d'encouragement, un sourire qui peut changer la vie et le cours de l'histoire de quelqu'un et qui peut l'amener à Dieu, à connaître l'amour de Jésus, à être restauré, sauvé et guéri pour l'éternité. Et le Seigneur, il nous appelle, frères et sœurs, vers les plus petits de ce monde, vers ceux envers qui cette société, envers qui le monde ne présente pas grand intérêt, des personnes peut-être qui n'ont pas de valeur ou qui n'ont pas forcément de diplôme ou de possibilité de s'exprimer, qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas écoutées, qui sont méprisées. Dieu nous appelle vers eux pour qu'on en prenne soin, qu'on les aime et qu'on vive cet amour-là. Et déjà entre nous, entre chrétiens, puisque s'il y a la guerre entre nous, c'est sûr qu'on n'aura pas un témoignage qui sera constructif pour les gens autour. Voilà, que Dieu vous bénisse. On va parler de la mission. Je vais juste prier le Seigneur et puis on va parler de la mission. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et je veux te demander pardon aussi pour nos pensées, nos paroles, nos actes que nous pouvons faire qui ne sont pas bien, car le mal de ce monde nous affecte aussi parce que nous sommes influencés par la société, par le monde dans lequel nous vivons et nous avons du mal à nous démarquer, à vivre comme toi, à vivre pour toi, Seigneur, et à ce que tu prennes toute la place en nous, que tu viennes régner dans nos cœurs, pour que nous puissions apporter cette paix et cet amour à ceux qui vivent dans le désespoir, la violence, la souffrance, la méchanceté, et qui sont privés de toi, Seigneur. Tu nous appelles à aller, à annoncer, à te servir, à faire du bien autour de nous, à partager notre pain avec ceux qui ont faim, à annoncer la bonne nouvelle, à témoigner de toi, Seigneur, et à nous aimer les uns les autres comme toi tu nous aimes. Viens nous pardonner, nous purifier, nous guérir, et Seigneur, nous rétablir et aussi nous garder, nous préserver de la corruption, du vice, de la débauche, de tout ce qui est mal à tes yeux, Seigneur, pour que nous soyons sur ton chemin de l'éternité, ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie, et que nous te suivions de tout notre cœur, et que nous puissions demeurer en toi et être gardés par toi, Seigneur. Remplis nos cœurs, viens à notre secours, et bénis ton Église, bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents, bénis les enfants et tous ceux qui sont autour, viens toucher les cœurs, viens te révéler et parler, Seigneur. Nous avons besoin de t'entendre et t'écouter. Dans le nom de Jésus, Amen.